liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 40 de l'année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, il est où, Nicolas ?
Bah, il est fatigué, il travaille, on en reverra la semaine prochaine.
Moi, je crois plutôt qu'il a eu peur devant la revue de presse, 9 articles, c'est énorme.
C'est pas mal du tout, il y a du bon, il y a du qui sent bon, il y a pas mal d'open source malheureusement. Donc on va parler d'open data, de l'open world forum, un petit peu d'emploi, langage de programmation Ribble qui a des évolutions intéressantes, les e-books en Californie, l'open world forum encore mais là plutôt du cloud computing, les entreprises et rien de tel, les entreprises et la croissance, deux articles sur Stallman, un du point de vue des brevets logiciels, l'autre un peu plus généralement sur la société numérique, et pour finir de la 3D. Et encore de la 3D.
Place publique, open data, libérer l'information pour découvrir une ville plus intelligente, un article de Des Sabots. Donc ça parle d'open data. L'open data, c'est ce programme consistant à libérer, publier, ouvrir les données publiques, mais pas que publiques. Donc ça parle plus de logiciels, mais bien d'informations, de données.
Voilà, et permettre aux citoyens d'y accéder, d'en faire ce qu'ils veulent. Donc ils font bien la distinction, ils indiquent bien que ces données ne sont pas des données personnelles, donc ça ne va pas concerner tout ce qui permettra de tracer, mais au contraire, les données plus institutionnelles, les moyens de transport, les données qui vont correspondre à, je ne sais pas, bon, à des constructions, vraiment les outils que les citoyens peuvent prendre en main. Et l'idée, c'est justement de leur permettre d'en faire ce qu'ils veulent et d'innover sur ces données.
Cet article-là, il donne une grosse part à la question des transports publics. À mon sens, alors il y a quelques approximations. Il y en a déjà une que j'ai trouvée particulièrement croustillante. C'est l'idée que les bénéfices de l'open data ne sont pas monétaires, mais immatériels. Or, jusqu'à preuve du contraire, la monnaie, c'est quand même super immatériel. L'article pose les problématiques importantes, hein, notamment, c'est bien gentil de mettre des données à disposition, mais il faut pouvoir garantir la qualité, l'interopérabilité des formats et le fait que ça arrive dans les délais. En revanche, il est un petit peu optimiste, je trouve. Le premier, c'est l'idée qu'avec ça, on va pouvoir faire des calculateurs d'itinéraire, des trucs comme ci, comme ça. C'est comme des opérations très très lourdes. Enfin, un calculateur d'itinéraire, c'est des choses qui vont nécessiter des investissements informatiques et des compétences très fortes. Donc, c'est pas un truc qu'on bricole dans son coin. Second point qui n'est pas abordé là-dedans, c'est les données temps réel. Et notamment en France, les transporteurs sont en général transporteurs privés avec des donneurs d'ordre publics et donc ils ont des contrats, ils doivent réaliser un contrat. Et à partir du moment où on peut mettre la main sur les données temps réel, n'importe qui va pouvoir aller vérifier si le contrat est effectivement respecté et donc aller réclamer que le transporteur paye des pénalités. Et donc être très très motivé pour surtout ne pas donner en open data le temps réel. Or pour toutes les applications mobiles, etc., c'est comme ça qui est intéressant.
En tout cas, beaucoup d'argent et il y a un chiffrage qui avait été fait, je ne sais plus si on l'avait répercuté, de 40 milliards d'euros sur les retombées économiques attendues de l'open data. Donc ne serait-ce que ça, même si on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, ça paraît intéressant.
Il n'avait rien compris. Il n'a rien compris.
Le MAGIT Open World Forum, une édition 2012 placée sous le signe de l'emploi et de la formation dans la filière. Un article de Cyril Chausson.
Donc l'Open World Forum, ils ont pas mal de répercussions dans les magazines et dans les articles. Donc ça va être toute une rencontre, notamment de gens un peu importants. Hein. J'ai bien peur qu'on n'y soit pas, Luc. C'est un peu dommage. Et là, bah, ils préconisent voilà, justement d'aller jeter un œil, notamment parce qu'ils vont parler de l'emploi et d'une charte emploi libre qui va être mise en place et qui va être présentée un petit peu au reste du monde économique. Donc, est-ce que tu as eu le temps de jeter un œil là-dedans ?
J'ai regardé, comme dans cet article, beaucoup de thèmes qui ont déjà été évoqués l'année dernière. D'une part, la croissance très rapide des activités commerciales dans le domaine du logiciel libre, dit open source. D'autre part, la difficulté de recruter des compétences sur ces technos-là. Cette charte est une nouveauté quand même, qui est intéressante. L'article apporte pas beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'on connaît déjà. Silicone.fr, le langage de programmation Ribble passe en open source, un article de David Feuget.
Donc un petit article rapide pour présenter quelque chose qui peut arriver et qui arrive, la preuve. Un langage Ribble fait par des Français, qui avait l'air d'être vraiment très bien, mais propriétaire. Il se trouve que y a un autre petit gars intéressant qui a fait un autre langage, qui s'appelle Red, qui était un petit peu orienté sur un clone, simplement une copie, donc qui reprenait les bons concepts, certainement améliorés. Mais lui, il l'avait fait en libre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la foulée ? Le gars qui faisait l'ancêtre, hein, qui faisait quelque chose de bien, eh bien, il a décidé, lui aussi, de le libérer. Faut croire que ça donne des idées, que ça oblige un petit peu. Il y a de la compétition sous la forme des esprits. Quand on fait du libre, eh bien, on peut plus facilement diffuser ce qu'on fait, le faire en sorte que ce soit pris en compte par les autres. Donc là, il y a une concurrence un peu bien motivée, qui est intéressante à voir. Une jolie évolution.
Ce qui est intéressant, c'est que la version propriétaire, bah, elle a un peu végété et vraiment, elle s'est atrophiée, etc. Alors, ce qui, par contre, est regrettable, hein, c'est les choix de licence, c'est-à-dire que la version qui était propriétaire et qui passe libre est en GPL, donc licence copyleft. L'autre est sous licence BSD, donc une licence libre non copyleft. Donc, les imports de l'une vers l'autre vont être possibles, mais pas dans l'autre sens. Actualité.com, Californie, des e-books gratuits pour des élèves en 2013, un article de Anya Vercasson.
Alors, il me semble qu'on en avait déjà parlé, c'est le fait que la Californie, bah, ils n'ont plus beaucoup d'argent et ils voudraient s'assurer que pour donner les manuels scolaires à leurs élèves, ils n'aient pas besoin de les imprimer, de faire passer par les éditeurs classiques, ils veulent économiser de l'argent en faisant du libre.
Voilà, ils ont évalué que le budget moyen d'un étudiant c'était 1 000 $ par an pour acheter des bouquins et qu'on pouvait donc faire de grosses économies en mutualisant tout ça et en évitant de leur faire débourser ses sous. Moi qui aime bien chasser ces expressions malheureuses, l'auteur cite la notion d'open source libre de droit. Encore une fois, libre ou open source, ça n'est pas libre de droit, loin de là, bien au contraire.
Donc les licences mises en avant, c'est plutôt du Creative Commons, qui sont des licences pas trop mal. Malheureusement, on peut choisir certaines clauses dans ce type de licence-là. Il me semble qu'ils ont choisi l'ANC non commerciale. Bon, c'est pas top, on considère que c'est pas vraiment libre, mais ça s'en rapproche quand même suffisamment pour que ce soit à noter.
ZDNet.fr, Open World Forum 2012, l'open source cherche sa voie dans le cloud, par Antoine Duvauchel. Encore l'Open World Forum et encore du cloud.
Et oui, hein, ils font parler d'eux, ils ont un bon contact avec les journalistes. Là, c'est pour parler sur une autre perspective, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en avant. Donc le cloud, le fait d'avoir de l'informatique centralisée sur des gros serveurs qu'on partage, qu'on loue, et dont on file des tranches un petit peu au cas par cas et au besoin, c'est une nouvelle façon de faire. Et ce qui est amusant, c'est que voilà, cette façon de faire, elle est essentiellement faite en logiciel libre plutôt qu'en propriétaire.
Oh oui, ça c'est une constatation qu'on a évoquée ici très régulièrement et qui est parue dans la presse très souvent. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils évoquent maintenant le problème des données, du contrôle des données, ce qui commence à sortir de plus en plus. Avant, on lisait des articles qui disaient « Youpi, on fait plein d'argent, c'est super », et là, on commence à dire « Ah oui, mais attention, il y a des standards de fait par des très gros acteurs comme peuvent l'être Amazon, par exemple, ou Google, ou des choses comme ça, et qu'est-ce qu'on pèse là-dedans? Comment on contrôle les données? Est-ce qu'on va pas se faire bouffer, indépendamment du fait que les logiciels sont libres ?»
Et oui, donc ça, ça va faire des grosses évolutions, il y a des choix qui sont là-dessus. Perso, j'utilise énormément le cloud pour faire ce qui est la plateforme, donc je loue des bouts d'ordinateur et c'est très très pratique, mais effectivement, pour la partie logicielle, quand vous louez une partie qui va faire, je sais pas, la gestion de vos ressources humaines, qu'est-ce qui se passe avec vos données? Est-ce que vous les contrôlez vraiment? C'est pas sûr et loin de là, et là, pour le coup, vous allez peut-être perdre de la liberté et des possibilités. Petite coquille, effectivement, il parle d'open source et du free software, c'est assez amusant dans l'article. Alors, on n'y coupe pas, c'était la semaine de l'open source. Heureusement, on a notre gourou adoré qui va en parler juste derrière.
Il faut résister.
L'usine nouvelle, la croissance des logiciels open source viendra des entreprises, un article de Rida Loukil. Donc on parle encore d'open source, et pour en revenir aussi sur la circulaire Hero, dont on parlait la semaine dernière, et là, c'est une bonne nouvelle, c'est le Conseil National du Logiciel Libre, hein, qui est une organisation d'entreprises françaises du libre, et qui ils sont tout à fait d'accord avec l'April, puisqu'ils disent que c'est une très bonne chose, cette circulaire qui incite les administrations françaises à se pencher sur le logiciel libre, mais qu'on peut faire mieux, à l'instar de l'Italie, en ayant toute une série de systèmes qui pourraient favoriser le logiciel libre, donc qui citent notamment une politique industrielle, des commandes publiques, de la fiscalité, de l'enseignement, qui en R&D et le maintien du statut de non-profitabilité du logiciel. Donc voilà, que des sujets qu'on aime beaucoup.
Alors moi je remarque, et je trouve ça assez amusant, c'est une association d'entreprises et forcément leur propos c'est de dire que ce sont les entreprises qui vont faire la croissance, pas l'État, pas le gouvernement, même si en faisant les bons choix, ils vont inciter les entreprises à aller dans la bonne direction. Donc la circulaire c'est bien, mais c'est pas le cœur de leurs propos. Bon, ça n'empêche, hein, ils abondent dans notre sens, on est quand même contents.
Bah ils ont pas tort non plus, l'État c'est pas l'ensemble de l'économie. Effectivement c'est une bonne chose que les services administratifs soient dirigés dans cette direction et ça fera des marchés publics. Il faut remarquer qu'on peut avoir une vraie politique économique, industrielle et leur propos se tient tout à fait et c'est légitime qu'ils veuillent augmenter leur business et pour moi ça va plutôt dans le bon sens. OVNI, monopole sur les idées, un article de Sabine Blanc et Ophélia Nour.
Ça y est, on va parler de logiciel libre, enfin.
Voilà, du logiciel libre pur et dur. C'est une interview de Richard Stallman qui était en France ces 15 derniers jours, là, ou pendant une semaine, quelques jours en tout cas. Et c'est une interview qui est bien rigolote, parce qu'elle retranscrit notamment les incompréhensions, ou en tout cas les moments où ces deux journalistes ont posé des questions qui fâchent à Richard Stallman.
Et oui, hein, y a rien de tel que de poser une question sur l'open hardware, par exemple, parce que bah, tout de suite, lui, il va faire remarquer qu'il n'a rien à voir avec l'open. Lui, il a à voir avec le libre.
Il y a quelques incompréhensions sur le sujet, qui sont très très rigolotes. Donc déjà il les coupe pour dire c'est pas le logiciel propriétaire, c'est le logiciel privateur, pour mettre en avant le fait que ces logiciels vont nous priver de nos libertés et que c'est ça qui est important. Voilà, il revient sur le brevet logiciel, sur les libertés, etc. Et bon, des sujets qu'on connaît, qu'on a déjà évoqués, et il les aborde comme toujours avec énormément de rigueur et de logique. C'est un esprit très rigoureux. Voilà, et après ça il y a un développement très rigolo.
Ah oui, oui, c'est la journaliste qui pose la question, comment ça se passe pour ma maman, elle est pas informaticienne, comment ça va se passer, le logiciel libre, ça peut pas la concerner.
Voilà, comment la convaincre, comment convaincre ma mère, donc la question genre bon, qu'est-ce que vous faites avec Madame Michu? Et Richard Stallman dit mais votre mère, elle se soucie de ses libertés, et là manifestement commence à avoir une discussion en disant que le côté pratique l'intéressera plus, etc. Richard Stallman répond, vous connaissez votre mère, peut-être est-elle bête, mais toutes les mères ne le sont pas, donc en gros, je rejette cette question qui a un préjugé faux. Donc voilà cette idée selon Stallman, et la vision selon Stallman, c'est qu'à partir du moment où on veut abandonner sa liberté contre un peu de confort, on est un imbécile.
Et oui, on connaît mieux et il est plus facile de revendiquer l'éthique que la technique, et toutes les mères du monde entier pourront le comprendre.
Le vif.be, Richard Stallman, la propriété intellectuelle est un terme de propagande, un article de Fabrice Imbert. Donc, seconde couche de Richard Stallman sur un sujet différent.
Et il fallait bien ça pour compenser tout cet open source.
Tout à fait. Alors, ça commence sur un peu les mêmes sujets, évidemment, hein, sur la question de la liberté, la dangerosité du logiciel privateur, des téléphones portables, des choses comme ça. Alors, il en profite pour dire une chose qu'il a probablement déjà dite avant, mais qu'il n'est pas l'inventeur du logiciel libre, mais qu'il n'a fait que remettre au goût du jour ce qui se pratiquait depuis les années 50 et qui avait été mis à mal par des grosses sociétés dans les années 70.
Or, ça n'empêche, hein, on continuera à le traiter comme le créateur du logiciel libre et du concept. On n'y coupe pas, c'est quand même lui qui l'a mis en avant et qui l'a créé dans sa forme actuelle.
Voilà, bon, après, effectivement, l'informatique se pratiquait par le passé uniquement dans le milieu universitaire, où les règles de publication, de partage de l'information, etc., s'appliquaient très naturellement au logiciel. Et effectivement, des logiques commerciales basées sur la fermeture, le verrouillage sont arrivées et ont un peu cassé tout ça. Et en fait, donc, la discussion dérive ensuite sur la question de la propriété intellectuelle, puisque le journaliste utilise le mot, et là, Richard Stallman explique que cette idée est une escroquerie, en tout cas un terme de propagande, et elle recouvre des réalités très différentes.
Et oui, parce que la propriété intellectuelle, on peut utiliser le mot, ça recouvre généralement le droit d'auteur, les brevets, le droit des marques, les appellations d'origine contrôlée et le secret industriel. Donc autant de choses qui sont tellement différentes les unes des autres qu'en fait, c'est un petit peu ridicule de les mettre ensemble. Ça couvre des durées, des organisations. Et globalement, il faut arrêter. C'est une arme de combat, ce terme, qui est utilisé pour laisser penser qu'on peut posséder les idées. Ce que nous, on défend que non, au contraire, les idées sont libres, on doit pouvoir les partager.
Voilà, on a quand même en France un code de la propriété intellectuelle. Et donc pour moi, ça invalide un peu le machin. Enfin, l'idée est importante, mais la notion même, on ne peut pas l'écarter en disant que c'est juste n'importe quoi. On a quand même des textes juridiques qui sont regroupés là-dessous. Libération.fr, impression 3D, le rêve, c'est d'en finir avec la production de masse. Un article de la rédaction. Donc là, on revient, comme la semaine dernière, sur l'impression 3D, mais un peu plus sur comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Encore sous une forme d'interview. Ouais, c'est du chat, une interview chat avec les internautes qui ont pu poser des questions à l'invité. Et donc, bah, on y retrouve tout ce qui a trait à l'impression 3D. Donc, évidemment, la mort de la production de masse, c'est pas pour tout de suite.
Non, mais on peut y rêver, quoi. Chacun aura son usine à la place de son micro-ondes ou au-dessus ou à côté. Et on pourra produire une tasse, on pourra produire son petit objet personnalisé en ayant téléchargé les plans sur Internet. C'est l'idée, en tout cas.
Voilà, donc à dire, si vous connaissez pas trop le sujet, si vous êtes déjà penché sur la question, ça vous apprendra pas grand-chose de neuf. Voilà, c'est fini pour cette revue de presse. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.